Chers frères et sœurs et chers amis, le titre de cette étude, c'est la négation qui veut dire « très peu pour moi ». Chaque époque produit ses propres formules et aussi ses propres locutions que l'on rebâche et ressasse à la première occasion, comme si elle se prêtait à toutes les circonstances. Et c'est le cas de la formule de négation, très peu pour moi, qui date du début du siècle et qui signifie « je n'en veux à aucun prix, car la chose est exclue ». On s'en sert pour se battre, pour donner un coup à autrui, et parfois pour se porter un coup mortel, même à soi-même. Et cette formule peut donc devenir extrêmement dangereuse au point de mettre une vie en péril. Mais elle peut aussi jouer un rôle très positif. Tout dépend de l'emploi que l'on en fait. C'est ce que nous allons voir à présent. Voyez-vous, il y a dans la Bible une histoire très ancienne, mais toujours actuelle, qui illustre bien cet aspect de la question. Je vais vous la raconter maintenant. Vous avez sans doute entendu parler d'Abraham, de cet homme de Dieu dont il est dit tout au début du récit de la Bible, Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. C'était le genre d'homme qui, tout en étant très conscient des fautes qu'il commettait, vivait dans une telle intimité avec Dieu qu'il les lui confessait dès qu'il les avait reconnus, acceptant par la foi la réconciliation que Dieu lui offrait. Or, Abraham se trouva un jour dans une position très délicate par rapport à Lot, son neveu. La Bible rapporte qu'Abraham était très riche en troupeaux et que Lot, qui voyageait avec lui, avait aussi des brebis et des bœufs. Et ce qui devait arriver arriva. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Du coup, un conflit ouvert risquait d'éclater entre oncle et neveu par manque d'espace vital. Les démêlés entre les bergers de l'un et de ceux de l'autre devenaient de plus en plus menaçants. Après chaque nouvel incident, ils couraient vers leurs maîtres respectifs et leur rapportaient tout excité, propos et gestes de leur antagoniste. Oui, la situation se détériorait visiblement. Si vous aviez été à la place d'Abraham, qui était de beaucoup l'aîné de Lot, il faut bien le dire, qu'auriez-vous fait? Si moi, j'avais été l'oncle de Lot, eh bien, je crois que je lui aurais dit « En voilà des manières, cela dépasse la mesure, va-t'en d'ici !» Et je pense que Lot aurait riposté « Jamais de la vie, je maintiens mes droits, c'est à toi de partir !» Les chamailleries n'auraient ainsi pas eu de cesse, mais au moment où il semblait que la rupture entre Abraham et Lot était inévitable, le vieillard pieux se tient en la présence de Dieu. En regardant son neveu, il se dit « un conflit, une rupture, très peu pour moi. » Oui, très peu pour moi. Puis il posa la main sur l'épaule de Lot et lui dit « qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre toi et moi, car nous sommes frères. » Et puis il lui propose un arrangement à l'amiable qui risque fort de tourner à son désavantage. Mais qu'importe, c'est pas ça le plus important. Une dispute, très peu pour moi. Et vous avez sans doute connu ce genre de situation où quelqu'un agissait à votre égard de la manière la plus provocante. Avez-vous aussi pensé « une dispute, très peu pour moi ». Et c'est ainsi que vous aurez peut-être réagi. Je crains fort que non. Ce n'est pas ainsi que vous aurez réagi. Vous avez sans doute préféré relever le défi, ce qui fait que vous êtes encore un peu, on peut le dire, en bisbille, par exemple, pourquoi pas avec Madame Durand, ou avec votre voisin. Que de fois cette petite formule, très peu pour moi, aurait été de mise. Oui, le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, n'a-t-il pas dit lui-même, heureux ceux qui procurent la guerre. Ah non, vous avez mal entendu. Heureux ceux qui procurent la paix. Si notre christianisme a si peu d'impact, chers amis, n'est-ce pas parce que, dans les moments critiques, nous n'arrivons pas à dire « oui, nous n'arrivons pas à dire une dispute, eh bien, ça, c'est très peu pour moi » et que nous flanchons lamentablement dans ce genre de situation. Laissez-moi vous raconter une autre histoire biblique que j'aime beaucoup. C'est celle d'un jeune homme qui avait comme nom Joseph. Joseph fut vendu, comme vous le savez, par ses frères. Esclave, il arriva en Égypte, pays très vaste et hautement civilisé, et il fut acheté par un homme riche du nom de Potiphar, qui avait de nombreux esclaves et de somptueuses demeures. Dans sa jeunesse, Joseph avait conclu une alliance avec le Dieu d'Abraham, avec son Dieu. Et ce tout jeune homme avait dit à Dieu, « Moi, je veux t'appartenir. » Et maintenant, il se retrouve tout seul en Égypte. Il voit les autres esclaves voler et mentir. Mais il ne fait pas comme eux. On se moque de lui parce qu'il ne fait pas comme eux. Mais, voyez-vous, il gagne la confiance de son maître qui commence à lui confier des responsabilités. Voyez-vous, même si l'on narque parfois les croyants, on aime faire appel à eux pour certaines tâches parce que l'on sait très bien qu'ils sont honnêtes et véridiques. Et c'est ainsi que Joseph, arrivé à l'âge adulte, fut établi par son maître sur sa maison et sur tout ce qui lui appartenait. La Bible va jusqu'à dire « Potiphar n'avait avec lui d'autres soins que celui de prendre sa nourriture. Il aurait peut-être aussi aimé, va savoir, se décharger de cela sur Joseph, mais c'était la seule chose dont il devait s'occuper lui-même. Joseph était devenu un très bel homme, et il s'habillait avec goût et élégance. Il n'est donc pas surprenant que la jeune épouse de son maître ait fini par le remarquer. C'était une païenne et une femme désœuvrée, car Madame Potiphar avait à son service une flopée d'esclaves qui la déchargeait de tout, absolument de tout. Or, comme le dit le proverbe, l'oisiveté est la mère de tous les vices. Et un jour, elle porte les yeux sur Joseph et commence à lui faire du charme. Mais Joseph n'y prête aucune attention. Et c'est alors que se produit cette scène troublante où, se trouvant seule dans la maison avec Joseph, elle se dresse tout d'un coup devant lui, en proie à une passion effrénée, et le saisit par le vêtement en le suppliant de coucher avec elle. La Bible raconte ensuite, en des termes d'une beauté extrêmement touchante, comment, après un moment de réflexion, eh bien, Joseph lui répond simplement « Très peu pour moi. » Quoi ? Un adultère ? Ça, c'est très peu pour moi. Et c'est ainsi que nous nous exprimons. Mais voyez-vous, les gens de la Bible utilisaient un langage bien plus beau, hein, quand même. Chatoyé. Joseph a admirablement bien choisi ses mots. Il a dit « Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» C'était la façon de dire « Très peu pour moi ». Nous nous sommes tous trouvés à un moment ou à un autre dans ce genre de situation où nous avons été tentés par le péché qu'on ne veut plus considérer comme tel, le péché de l'impudicité. Avons-nous aussi réagi en disant « Dieu me voit ? Très peu pour moi, puisqu'il me voit, surtout pas. » Que ressentons-nous en voyant l'attitude de Joseph? Je crains fort que si nous avions été à sa place, il ne nous serait pas venu à l'esprit de dire « Très peu pour moi ». Oui, très peu pour moi, par respect pour le commandement de Dieu qui veut que nous restions chastes et que nous restions purs dans nos paroles et même dans nos actes. Et cette formule ne nous remonte pas souvent à la mémoire dans ces moments-là, mais Dieu s'en souvient. Le jour venu, il se rappellera, croyez-moi, chacun de nos péchés. Quel dommage qu'à l'instant décisif, la petite formule « très peu pour moi » ne nous viennent pas à l'esprit. Ce serait pourtant une excellente façon de réagir à l'heure de la tentation, lorsque nous sommes sur le point de fouler aux pieds l'un des commandements de Dieu. C'est d'ailleurs un des traits caractéristiques de notre époque. On ne tient plus compte des commandement de Dieu. Très peu pour moi est une excellente formule à utiliser lorsque l'esprit du siècle nous tente de fouler aux pieds les commandements de Dieu. La Bible nous décrit une scène saisissante. Le Fils de Dieu est au sommet d'une montagne très élevée. Et là, le diable, bien que vous ne croyez pas en son existence, il n'en est pas moins réel, je vous le garantis. Il se tient à ses côtés et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si seulement tu fléchis un instant, juste un instant, le genou devant moi. » Mais le Fils de Dieu lui répond, « Très peu pour moi. Le monde entier peut fléchir le genou devant toi. Très peu pour moi. » En fait, il l'a bien mieux dit. Il a dit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Si seulement la formule « très peu pour moi » nous venait toujours à l'esprit au bon moment, n'est-ce pas? Et c'est tellement dommage que nous ne l'utilisions pas quand il le faudrait. Et je le dis aussi, croyez-moi, pour moi. Hélas, mes amis, la plupart d'entre nous se servent de la formule à mauvais escient. J'ai devant moi un jeune homme, un type épatant, comme diraient certains. Je lui dis, « Bigre, que ne pourrais-tu pas faire quelque chose de merveilleux de ta vie si seulement tu te décidais à la confier à Dieu ?» Mais lui de me répondre, « Pof, oh là là, ça c'est très peu pour moi. Nous traitons Dieu comme, je vais vous le dire à l'aide d'un exemple, mon médecin m'ayant prescrit une promenade quotidienne d'une heure, je pris tout récemment un chemin qui longeait la gare. Et voilà qu'au beau milieu du chemin, je vis un vieux canapé. N'en ayant plus l'utilité, ses propriétaires l'avaient abandonné dans le jardin public à la faveur de la nuit, en se disant, « Eh bien, la ville n'a qu'à se débrouiller pour le faire enlever. » Je m'imagine ainsi l'histoire de ce vieux canapé. Un jeune couple l'avait hérité d'une grand-mère qui était décédée. Mais ayant un appartement moderne avec des meubles neufs, le mari dit à sa femme, « Qu'allons-nous faire de ce vieux canapé ? Il ne va pas bien avec le reste de nos meubles. Et on ne sait jamais. Il pourrait s'y cacher de la vermine. Le plus simple, c'est de nous en débarrasser. » Et ils le déposèrent dans le jardin public, tout simplement. Et c'est exactement ainsi que l'homme d'aujourd'hui procède avec le Dieu vivant. Celui-ci ne s'accorde plus avec notre style de vie. Il ne convient plus à notre société moderne pluraliste. Il ne cadre plus avec notre mentalité. Qu'allons-nous faire de lui? Déposons le vieux canapé à l'église. De toute façon, et les fermer en semaine. Mes chers amis, le Dieu vivant n'est pas un vieux canapé. Est-ce bien clair? Il n'est pas une vieillerie dont nous pouvons nous débarrasser à notre gré parce que nous la trouvons démodée. Avez-vous seulement une idée de ce qu'est le Dieu vivant, ce qu'il représente pour nous? Peut-être l'Église est-elle en partie responsable du fait que Dieu nous pose des problèmes. Normalement, la simple mention de son saint nom devrait suffire à nous faire froid dans le dos. Mais on se retranche derrière un mur d'indifférence et on dit « très peu pour moi ». Essayons de remonter de l'effet à la cause. Un peu partout, on entend dire que l'Occident tout entier est bien malade, pas seulement physiquement, par la multiplication des cas de cancer, de leucémie, d'infarctus et de toutes sortes d'autres maladies, mais aussi, surtout, spirituellement. Et c'est le plus terrible. L'homme moderne souffre d'une carence spirituelle. Et c'est la seule explication à l'augmentation alarmante des cas de dépression. Comme le saisit un médecin suisse très perspicace, il dit « Notre époque souffre du manque de Dieu ». Au Moyen Âge, on tablait encore sur Dieu. Les cathédrales le montrent bien. Mais par la suite, on a essayé de se débarrasser de lui. La laïcité n'est en somme qu'une gigantesque tentative très rusée pour mettre Dieu au rancard. On a essayé de le remplacer par la technique. Les savants ont usé leurs plumes à vouloir prouver que Dieu n'existait pas. Les masses ont vociféré. Voyez-vous, la religion, c'est l'opium du peuple. Le bambin le plus bête se demandait où Dieu pouvait bien se cacher, et tout en continuant à sucer son pouce, il s'exclamait « Je ne l'ai du reste jamais rencontré ni vu. Il ne doit donc tout simplement pas exister. » Oui, on a tout fait pour essayer de se défaire de Dieu. Et voyez-vous le résultat? Tous ces efforts se sont soldés par un échec. On n'a pas pu se débarrasser de Dieu. Je cherche encore l'athée honnête qui ose affirmer avec conviction que Dieu n'existe pas. Ce genre de personne est aujourd'hui introuvable. Et si l'on devait la trouver, elle serait tellement bête qu'on ne pourrait pas en tenir compte. Un des fondateurs de la physique nucléaire moderne, le professeur Max Planck, a publié peu avant sa mort une brochure intitulée « Religion et science » dans laquelle il déclare « Pour nous les scientifiques, il va aujourd'hui de soi » que le Créateur est l'aboutissement de toutes nos connaissances. Vous voyez donc qu'on n'a pas pu éliminer Dieu. Les hommes me disent « Je crois qu'il y a un bon Dieu ». mais je laisse aux autres le soin d'aller à l'église. On ne nie pas Dieu, mais on ne veut pas pour autant lui livrer sa vie. Le problème de Dieu reste sans solution, et les problèmes irrésolus provoquent des complexes, des maladies nerveuses ou mentales qui finissent par démolir l'homme. Nous nous détruisons donc en n'ayant pas le courage d'élucider l'affaire de Dieu. À l'église, il y a 10 femmes pour un homme qui assiste au culte. Où sont, chers amis, tous les autres hommes? Je vous garantis qu'avant même d'aller en enfer, eh bien vous allez dépérir intérieurement parce que vous n'avez ni le courage de livrer votre vie à Dieu, ni les moyens de vous débarrasser de lui. Et face à une telle situation, nous, les chrétiens, nous avons une nouvelle sensationnelle à vous annoncer. Ce Dieu que nous traitons de façon si odieuse a abattu le mur qui nous séparait de lui et il est venu à nous en la personne de son Fils Jésus-Christ. Un Sauveur divin est apparu sur la terre. Et il n'a pas seulement vécu parmi nous, il est aussi mort sur la croix pour nous. Dieu pouvait-il faire plus pour vous que de mourir à votre place sur la croix? Puis il est ressuscité des morts, battant la mort en brèche et frayant le chemin de la vie. Et vous? Pour toute réponse, vous dites « Eh oui, c'est très bien, cela vaut la peine d'être entendu, pourquoi pas, mais c'est très peu pour moi. Et une telle inconséquence me donne la nausée, elle me rend littéralement malade. Oui, chers amis, je vous en conjure, prenez cette nouvelle stupéfiante au sérieux. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais Jésus-Christ fait davantage encore. Oui, il nous adresse une parole extrêmement réconfortante. Voici, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Oui, il existe une grande variété de chrétiens. Il y a ceux qui se contentent de payer l'impôt ecclésiastique, des gens aimables, mais incroyablement ennuyeux. Et il y a ceux qui ne vont à l'église qu'à Noël. Je les plains. Ces chrétiens, des jours de fête, il y a ceux encore qui envoient leurs femmes à l'église. C'est déjà pas mal. Mais eux n'y mettent jamais les pieds eux-mêmes. Et c'est affreusement peu. Il y a évidemment aussi ceux qui vous disent « Oh, moi, voyez-vous, j'ai été baptisé. » Oui, c'est pas mal. Mais s'il n'y a que cela. Et il y a aussi ceux qui ont entendu l'appel du Seigneur vivant. « Je me tiens à la porte et je frappe. » Et si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et qu'il lui dise « Très peu pour moi, c'est vraiment terrible de simplement dire cela. Simplement, Seigneur Jésus, un peu de christianisme, je veux bien, mais te laisser envahir ma vie, cela va trop loin. C'est donc très peu pour moi. Et c'est ainsi que l'on se sert de la formule « très peu pour moi », et ceci à mauvais escient. Vous ne m'écouterez pas si vous n'aviez pas un peu d'intérêt pour l'Évangile. Mais si vous voulez expérimenter la glorieuse réalité de Christ, il vous faut prêter l'oreille à son appel, lui ouvrir la porte et l'accueillir dans votre vie. Il en est un qui aurait toutes les raisons de dire « très peu pour moi » et qui ne le dit pas. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il aurait effectivement toutes les raisons de dire « très peu pour moi » et il ne le dit pas. Dieu soit loué qu'il ne le dit pas. Oui, chers amis, voyez-vous, un poète danois du nom de Jacobsen a écrit une nouvelle émouvante intitulée « La peste à Bergame ». Bergame est une petite localité italienne près de Ravenne, construite à flanc de montagne et reliée au monde extérieur uniquement par un chemin rocailleux. D'après le récit de Jacobsen, au Moyen Âge, la peste avait un jour éclaté dans cette petite ville. C'était affreux. Jour et nuit, on sonnait le glas. Les gens criaient à Dieu et imploraient son secours. Mais rien n'y faisait. La peste sévissait toujours plus cruellement. Découragés, les habitants de la ville se dirent « Dieu est mort » et c'est le laisser-aller général. On roule les tonneaux hors des caves et on se met à boire sans retenue, au point que bientôt hommes et femmes, ivres morts, s'enlacent et s'accouple sans se soucier de l'identité de leur partenaire. La beuverie dégénère en une vraie bacchanale, l'orgie carrément du désespoir. Pendant des jours et des jours, plus rien ne compte sinon de laisser libre cours à tous ces instincts. Parfois, au beau milieu de la danse, quelqu'un s'écroule, terrassé par la peste. Mais personne n'y prend garde, car l'orgie continue. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Mais voilà que, soudain, tout le monde s'arrête net. On entend au loin un chant, oui, un cantique. Tous se précipitent vers la porte de la ville. À leur grande surprise, ils voient une procession de pénitents gravir le chemin de la ville en psalmodiant une litanie, « Kyrie eleison, Seigneur, aie pitié de nous !» Et en tête marche un moine, portant une lourde croix de bois. La procession arrive aux portes de la ville. Mais les habitants de Bergame sont là et rigolent. « Bande d'idiots !» c'est ce qu'ils disent, « car ici, Dieu est mort !»« Arrêtez vos stupides litanies, car Dieu est mort !»« Venez avec nous, mangeons et buvons !» car demain, nous mourrons. Mais le moine, en tête de la procession, poursuit son chemin. Les portes de l'église sont ouvertes, bien que personne n'y ait plus mis les pieds depuis des semaines. La procession y pénètre. Le moine adosse sa croix contre un pilier. Alors la meute sauvage et effrénée de ces gens voués à la mort entre à son tour en vociférant et ricanant. Un apprenti boucher, hors de lui, le tablier taché de sang, s'approche de l'autel, brandit un calice en or, écrit « Buvez et enivrez-vous, car chez nous, Dieu est mort. » Mais entre-temps, le moine est monté en chair. Il est très pâle. Par un geste de la main, il fait signe à la foule de se taire. Le silence se fait et il se met à parler. « Moi, je vais vous raconter quelque chose. Lorsque le Fils de Dieu fut attaché à la croix, qu'on lui eut enfoncé les clous dans les mains, le peuple tout autour se mit à se moquer de lui, à le narquer et à le ridiculiser. Même les deux malfaiteurs, crucifiés à sa droite et à sa gauche, joignirent leur raillerie à celle de la foule. À ce moment-là, le Fils de Dieu se dit « Est-ce pour ces gens-là que pas même ma mort n'arrive à toucher, que je dois mourir? Dois-je donner ma vie pour cette humanité odieuse et endurcie ?» Et s'écriant « Très peu pour moi !» Oui, très peu pour moi, et il arrache de sa force divine les clous du bois, saute de la croix, reprit au mercenaire sa tunique d'un geste qui fit dégringoler les dés jusqu'au pied de la colline du calvaire, la jeta sur ses épaules et il monta au ciel en se répétant « Très peu pour moi !» La croix resta vide. Et maintenant, il n'y a plus ni rédemption, ni salut, ni vie éternelle, il n'y a plus que la mort et l'enfer. Sur ces mots, le moine s'arrête. Dans l'église règne un silence de mort. L'apprenti boucher est descendu depuis un moment de l'autel. Il se trouve à présent sous la chair. Le calice lui a glissé des mains. Il n'y a plus ni rédemption ni salut. Ah oui, et brusquement, l'apprenti boucher fait trois pas en avant, pointe la main vers le moine et crie d'une voix forte, une voix tranchante. « Toi, là-haut, remets le sauveur en croix, je t'en supplie, remets le sauveur en croix. » Mes amis, le moine n'a pas relaté les faits intentionnellement tels qu'ils se sont déroulés. Voyez-vous, une des choses les plus étonnantes, c'est justement que le Fils de Dieu n'ait pas dit « Très peu pour moi » et qu'il continue en quelque sorte à se laisser crucifier par ces hommes qui disent « travail, plaisir, santé » ont plus d'importance pour nous que le salut de notre âme. Le Sauveur qui, jusqu'à ce jour, n'a cessé de nous suivre, aurait toutes les raisons de nous dire « très peu pour moi ». faites ce que vous voulez. Si j'étais à la place de Jésus-Christ, je laisserais le monde courir à sa perte parce que je suis peut-être un sale égoïste. Mais lui, le Fils de Dieu, ne dit pas « très peu pour moi ». Il continue à aller à notre recherche. Combien de temps faudra-t-il encore qu'il vous suive? Quand finirez-vous par comprendre qu'il veut vous avoir à lui? Quand vos yeux vont-ils s'ouvrir? Quand lui direz-vous « mon Sauveur, ô mon Rédempteur » Brièvement, quelques mots sur mon dernier point. Ayez encore un tout petit peu de patience. Voyez-vous, à ceux qui lui disent « très peu pour moi », Christ répond « sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Cela est parfaitement vrai. Tout ce que vous faites sans lui n'a aucune valeur à la lumière de l'éternité. J'ai observé un jour des gamins qui se bagarraient dans la rue. Un petit bonhomme qui passait par là reçut aussi des coups, sans doute par mégarde. Alors que je me demandais s'il ne fallait pas m'interposer, je fus le témoin d'une scène touchante. Le petit réussit à se dégager de la mêlée. Ses yeux coulaient, son nez saignait, mais il partit au plus vite. Quand il se crut suffisamment en sécurité, il s'arrêta, se retourna et cria d'une voix forte : « Vous allez voir, je vais le dire à mon grand frère qui a 2,10 m et qui est très costaud. » Du coup, tout était rentré dans l'ordre. Il avait un grand frère auquel il pouvait tout confier et qui était prêt à l'aider. Et j'ai pensé, mon petit ami, c'est chouette que tu aies un grand frère. Une grande joie m'envahit, car moi aussi, j'en avais un qui se tenait à mes côtés. C'était Jésus-Christ. Il est en effet merveilleux de voir comment ce grand frère intervient si puissamment en faveur des siens. Il va jusqu'à leur dire « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Comme le dit l'auteur du cantique, « Prends ma vie, elle doit être à toi seul, ô divin maître. » Que sur les flots de mes jours, ton regard brille toujours. J'aimerais que vous disiez à votre Sauveur qui a tant fait pour vous, Seigneur Jésus, sans toi, je ne veux plus rien faire. Non, il est évident qu'en matière religieuse, on ne peut avoir de certitude. La religion est par définition la recherche de Dieu par l'homme. Or, une telle recherche implique nécessairement une inquiétude, une incertitude perpétuelle, et il en va tout autrement pour l'Évangile, qui est la recherche de l'homme par Dieu. Aussi ferions-nous bien de formuler la question différemment, car l'Évangile peut-il vraiment nous apporter une certitude? On s'accommode d'un flou invraisemblable pour tout ce qui a trait à Dieu. En premier lieu, je dois vous dire que nous, les hommes d'aujourd'hui, nous sommes des gens bizarres. Le type le plus costaud au moindre petit bobo se précipite chez son médecin et lui dit « Docteur, là, j'ai vraiment très mal. Qu'est-ce que c'est ? on veut savoir exactement où l'on en est. Ou bien prenez le cas de quelqu'un qui cherche une employée de maison. Une jeune fille se présente. « Bon, lui dit la maîtresse de maison, vous aurez votre chambre avec eau chaude et eau froide, téléviseur et chaîne. Je vous donnerai un jour de congé entier par semaine. » « Très bien, répond la jeune fille, mais je voudrais connaître la somme nette que je toucherai à la fin du mois. » « Eh bien, répliqua la dame, nous nous mettrons d'accord sur ce point lorsque j'aurai vu comment vous travaillez. »« Jamais de la vie, rétorque la jeune fille. Dans ces conditions, je préfère renoncer à la place. Je veux savoir à l'avance que je vais gagner. » La jeune fille a-t-elle vraiment raison ? Quand on nous offre un emploi, la question la plus importante est bien celle du montant de notre salaire ou de l'échelon de notre traitement. Nous voulons savoir à quoi nous en tenir. Dans les questions d'argent, nous ne tolérons aucune incertitude. Et il en va de même pour tous les domaines de notre vie. Sauf pour le plus important de tous, c'est notre relation avec Dieu. Là, nous nous contentons d'un flou invraisemblable. Chers amis, avez-vous des certitudes au sujet de Dieu? Je m'adresse là aux chrétiens. Pouvez-vous faire votre, les paroles de ce fameux cantique? Écoutez bien, je sais qu'en lui j'ai la vie, car il m'a sauvé par son amour. Vous me répondez sans doute, oh, j'espère bien. Il est tout de même étrange que pour tout ce qui a trait à Dieu, païens et chrétiens se soient résignés à vivre dans l'incertitude. Si je traversais la ville et posais à tous les hommes que je croiserais la même question, dites-moi, croyez-vous que Dieu existe? Ils me répondraient tous, oui, il doit bien y avoir un Dieu. Mais si je continue mon interrogatoire en leur demandant « Lui appartenez-vous ?» on me répondrait « Je n'en sais rien. » De quel flou invraisemblable ne s'accommode-t-on pas dans un domaine pourtant aussi vital ? Un jeune vient tout récemment d'en faire la triste expérience. Il est étudiant et gagne un peu d'argent pendant les vacances en travaillant comme manœuvre dans une entreprise de construction. Un jour, ses camarades de travail apprennent qu'il est membre actif d'un mouvement de jeunesse protestante. « Bougre, lui disent-ils, tu es fou ! » Il s'ensuit une mise en boîte en règle. « Tu vas sans doute le dimanche à l'église ?»«
Bien sûr. »«
Tous les dimanches ?»«
Oui. »«
Mais tu es complètement cinglé. »«
Pensez-vous, je vais même en semaine à l'étude biblique ?»«
Pas possible. C'est carrément de la pure folie. » Et ils se mettent à cracher leur venin. « Ah, les bigots, ces sales momiers !» ne cherchent qu'à abrutir leurs ouailles. Le christianisme a lamentablement échoué après s'être démené pendant plus de 2000 ans. Oui, tous pensent que la Bible est un amas de sottises. Bref,
le jeune homme est l'objet d'un harcèlement monstre. Mais comme il a une peau d'éléphant, il laisse tout glisser sur lui. À bout d'arguments, ses camarades finissent par se taire. Il leur dit alors, « Si telle est votre attitude à l'égard du christianisme, je présume que vous êtes tous sortis de l'Église. » Un silence général. Puis un des aînés reprend et y répond, « Mais que veux-tu dire par sortir de l'Église ?»« Fichtre, moi, je crois aussi au bon Dieu. » Tu as l'air de penser qu'il n'y a que toi qui es chrétien. Je crois au bon Dieu tout autant que toi. Et les autres de renchérir. Tu as une façon de te faire passer pour meilleur que les autres. Nous aussi, nous sommes des chrétiens. Nous croyons également au bon Dieu. Les rôles sont à présent inversés. Ils crient tous en chœur, nous croyons aussi au bon Dieu. Nous sommes chrétiens au même titre que toi. Et quand ils se taisent, mon jeune ami leur demande, mais alors, pourquoi vous moquez-vous de moi? Et eux de répondre, pas, oh là là, tu nous énerves avec tes histoires, on ne peut pas discuter avec toi. Ces ouvriers du bâtiment étaient des hommes costauds, capables, après avoir bien transpiré, de vider plusieurs canettes de bière. Ils se moquaient royalement du christianisme. Mais lorsque on les mit au pied du mur, tout ce qu'ils trouvèrent à dire, c'était « Nous aussi, nous sommes chrétiens ». Que faut-il en penser, chers amis? N'est-ce pas bouleversant? Pour tout ce qui touche à Dieu, on s'accommode du flou le plus complet. On se comporte tantôt en païen, tantôt en chrétien. Ai-je tort? Je crains fort que la plupart d'entre vous ne vivent dans la même incertitude, la même confusion. Or, voyez-vous, la Bible nous présente de glorieuses certitudes. Il se peut que vous me répliquiez, mais la foi chrétienne n'a rien à voir avec des certitudes. Le génie du christianisme ne réside-t-il pas dans le fait que l'on ne sait rien, mais que l'on croit tout? Il n'y a pas longtemps, un homme me répétait la fameuse phrase dont on m'a souvent rabattu les oreilles au cours de ma vie. « Je sais que deux et deux font quatre. » Mais pour ce qui est de la foi chrétienne, on ne peut rien savoir. Il faut se contenter de croire. D'après cette conception des choses, on devrait donc, face aux vérités bibliques, mettre sa raison en veilleuse et nourrir une foi aveugle. Ce point de vue est partagé par la plupart des gens. Quelqu'un d'autre me dira peut-être, « Mais, vous les chrétiens, vous n'êtes pas même d'accord entre vous. Il y a les catholiques, les protestants et les sectes. » Et parmi les protestants, il y a les luthériens, les réformés, les anglicans, les méthodistes et bien d'autres encore. Qui a raison? Je pense que même la chrétienté est convaincue qu'au fond, la foi chrétienne est ce qu'il y a de plus flou, de plus incertain. Mais ça, c'est une erreur monumental. En effet, je ne peux savoir ce qu'est la foi chrétienne que par le Nouveau Testament. Or, chacune de ces lignes contient des certitudes. Il n'y a rien qui est flou. Cela est hors de doute. Il est aberrant que la chrétienté puisse vivre dans un tel flou. Mais cela n'est pas la faute de l'Évangile, absolument pas. Car le Nouveau Testament abonde en glorieuses certitudes. Voyez-vous, parmi ces certitudes, il y a celle de l'existence de Dieu. Il n'est pas présenté comme l'être suprême, la providence, le destin, le bon Dieu, mais comme le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce Dieu-là existe bel et bien. Comment le savons-nous? Il s'est révélé en la personne de son Fils. Nous pouvons en être tout à fait certains. Ouvrez la Bible à n'importe quelle page. Elle ne traite pas de problèmes religieux. Elle atteste que Dieu existe et qu'il s'est révélé par Jésus-Christ et que l'homme qui vit sans Dieu vit de travers. Il y a aussi la certitude que ce Dieu qui peut détruire les peuples et exercer le jugement m'aime, il m'aime vraiment d'un amour ardent. Et nous n'en sommes pas réduits aux conjectures. Nous lisons dans la Bible, j'ai l'assurance absolue que ni la mort ni la vie ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur bien-aimé. Donc, l'amour de Dieu se manifeste à nous en la personne de Jésus-Christ. Nous ne le supposons pas, mais nous le savons. Où apparaît l'amour de Dieu? Il s'est manifesté en Jésus-Christ, et le croyant peut maintenant chanter « Mon Sauveur m'aime, quel ferme appui pour ma foi !» L'amour suprême descend vers moi. Dieu vint sur la terre vivre en homme de douleur. Voyant ma misère, il m'ouvre son cœur. En savez-vous quelque chose? En avez-vous, chers amis, la certitude? Les hommes de la Bible avaient aussi la certitude de leur salut et de leur appartenance à Dieu. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Les disciples de Christ ont vécu un changement radical de leur existence et ils le savent. Ou encore, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Pouvez-vous dire cela, chers amis? Ou encore, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il y a un présent, car nous sommes maintenant enfants de Dieu. La Bible abonde en certitude. D'où vient alors cette phrase absurde, oui, qui dit « Je sais que 2 et 2 font 4 ». Et pour ce qui est de la foi chrétienne, on ne peut rien savoir. Il faut donc se contenter simplement de croire. Je sais très bien que 2 et 2 font 4, mais je suis encore beaucoup plus certain que Dieu existe. Et je sais que 2 et 2 font 4, mais je suis certain, absolu, que Dieu nous aime en Jésus-Christ et qu'il veut notre salut, nous sauver, afin que nous ne soyons pas perdus. Et tous ceux qui se sont convertis au Dieu vivant peuvent ajouter, nous savons que 2 et 2 font 4, mais nous savons encore beaucoup mieux et nous sommes encore beaucoup plus certains que nous sommes des enfants de Dieu. Or, où trouve-t-on actuellement, dans la chrétienté, une telle certitude? Où donc, chers amis? N'est-ce pas la preuve que nous nous sommes éloignés de la Bible et qu'il est grand temps d'y revenir? Finissons-en avec notre mini-dose de christianisme, car un soupçon de foi chrétienne ne sert absolument à rien. Ce qu'il nous faut, c'est un christianisme foncièrement biblique qui prend Dieu au mot. Voilà ce qui s'impose et ce qui paye, être certain que Dieu existe, qu'il m'aime et que je suis son enfant. Tout le reste ne sert à rien. Or, il y a deux côtés à cette certitude chrétienne. Je sais objectivement que Dieu existe et que sa révélation en la personne de Christ est authentique. Même si le monde entier la rejette, je sais que Jésus est mort pour réconcilier le pécheur avec Dieu et qu'il est ressuscité pour le sauver, même si personne ne saisit ce salut. Mais je sais aussi subjectivement que Dieu existe, qu'il s'est révélé en Jésus-Christ, qu'il est mort et ressuscité parce que je me le suis approprié personnellement par un acte de foi conscient. Et si 10 000 savants affirmaient à un jeune croyant que Jésus n'est pas ressuscité, il pourrait leur dire, « Messieurs, sauf le respect que je vous dois, je sais que mon Rédempteur est vivant. Si le monde entier le contredit, le croyant peut affirmer, « Je sais en qui j'ai cru. » Et si vous me submergiez d'arguments scientifiques, eh bien je vous répondrai, j'en sais plus long que vous. Si tout l'univers se mettait à douter, je dirais encore, je suis sûr de mon affaire lorsqu'elle est fondée sur la Bible, car la foi du chrétien est aussi solide qu'un roc. Chers amis, je dois en effet vous poser la question ultime. Avez-vous une telle certitude? Ou bien vous manque-t-elle encore? Si vous me répondez, j'ai cru que j'étais chrétien, mais je ne le suis pas, car dans mon esprit, tout est encore flou. Alors, je n'aurai pas parlé en vain. Charles Spurgeon, le célèbre prédicateur londonien qui a été à l'origine d'un puissant mouvement de réveil au siècle dernier, disait un jour « La foi est comme un sixième sens. Comme vous le savez, nous avons 5 sens qui nous permettent de percevoir le monde extérieur, le goût, l'odorat, l'ouïe, le toucher et la vue. Par leurs moyens, nous arrivons à nous y retrouver dans notre monde tridimensionnel. Un homme qui ne tient compte que de ce qu'il perçoit par ses sens raisonne ainsi. Où Dieu peut-il bien se trouver? Je ne le vois pas. Et Christ non plus. Comment voulez-vous que j'y croie? Mais lorsque Dieu nous éclaire par son Esprit Saint, il éveille en nous un sixième sens. Nous sommes alors non seulement capables de voir, de toucher, d'entendre, de sentir et de goûter, mais aussi de percevoir le monde spirituel. Comme le dit la Bible, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. cela seul, ce sixième sens-là, peut le faire. Oui, c'est l'Esprit Saint qui peut le faire. Chers amis, nous allons prier ensemble et vous pouvez prier cette prière simplement après moi, si vous le voulez bien, ou silencieusement dans votre cœur. Que nous puissions vivre sans cesse dans cet amour qui nous unit, qu'il soit la part et la richesse de ton troupeau qui t'en bénit. Exauce, ô Dieu, notre prière. Viens nous unir à notre époux. Nous t'en prions, ô tendre Père, dans l'unité consomme-nous. Ô Seigneur, notre Dieu, nous te prions de remplir nos cœurs de cette charité de 1 Corinthiens 13 que nous sommes si incapables de produire en nous-mêmes et sans laquelle l'espérance et la foi même ne sont rien devant toi. Ce n'est que par la contemplation de tes humiliations, de tes souffrances, de ta croix, ô Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé, que nous comprendrons quelque chose de cette charité divine. Ô, donne-nous de ne pas nous lasser, de méditer sur ce que tu as fait pour nous. Réchauffe nos cœur au contact de ton amour infini et que nous nous pénétrions de chacun des traits par lesquels ton Saint-Esprit nous décrit la véritable charité afin de nous demander devant toi si nous pouvons la reconnaître en nous, cette charité patiente, douce, pleine de bonté, qui ne se réjouit point de l'injustice, mais qui se réjouit de la vérité, que rien n'altère, que rien n'ébranle, et qui ne périt jamais. Oh, que nous avons besoin que tu opères en nous, Seigneur, et que nos cœurs soient réellement transformés à ton image, pour qu'elles puissent vivre et se développer en nous. Assiste-nous donc par ta grâce, Dieu qui est amour et qui nous a aimés le premier. Viens demeurer en nous toi-même afin de nous apprendre à aimer non seulement ceux qui nous font du bien, mais nos ennemis même, comme nous avons été aimés et pour l'amour de notre Sauveur bien-aimé. Amen. Et chers amis, n'oubliez jamais que Dieu vous aime. Ça, c'est une réalité. Et que nous vous aimons également de tout notre cœur. Soyez bénis. Et merci pour l'intérêt que vous portez à ces messages, à ces études. Et j'espère, nous espérons, que vous serez intéressé d'écouter la suite. Merci pour votre intérêt. Au revoir, mes très chers amis.